Il y a une résolution que j'avais prise en début d'année. C'était celle de me remettre au sport. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, dans d'autres épisodes de Microsciences, certains de mes intervenants me le conseillent fermement.
Bien s'alimenter, faire du sport, bien dormir, ça influence les mécanismes épigénétiques de façon directe et quasi immédiate.
À ce moment-là, on est pré-diabétique. Mais ça ne nécessite pas forcément une prise en charge, si ce n'est peut-être une modification de ses habitudes de vie, peut-être sur l'alimentation, sur l'exercice physique.
Donc voilà, je me remets au sport. Mais en douceur, je vous préviens. Microsciences, un podcast de la RTS.
Alors moi je fais du triathlon, j'ai fait de la natation puis du triathlon au haut niveau, puis je continue à en faire et puis je fais d'autres activités pour les faire avec les enfants puis pour varier, alors ça peut être du tennis, de l'escalade.
Stop, j'ai dit en douceur, c'est bon. Bienvenue dans Microsciences, le podcast qui transforme nos petites questions de la vie en grandes réponses scientifiques, mais pas forcément olympiques. Le sportif qu'on vient d'entendre, c'est Vincent Gremaud. Il est médecin responsable du Centre de sport suisse olympique du CHUV et professeur associé à l'Institut des sciences du sport de l'Université de Lausanne. Quand je l'ai appelé la première fois, en plein mois de décembre, il m'a proposé de prendre mon maillot de bain et de me baigner avec lui dans le lac. J'ai fixé un rendez-vous et curieusement, on s'est loupé ce jour-là. Je l'ai rappelé, il m'a proposé de prendre mes baskets et d'aller faire un footing avec lui. On a dû annuler pour cause de pandémie. Alors finalement, je l'ai rencontré dans son bureau au CHUV. Mais ça lui vient d'où, à Vincent Gremaud, cette idée de vouloir absolument me faire faire du triathlon, de me tremper dans de l'eau glacée ou de me saucissonner pour faire de l'escalade?
Ben, vous n'êtes pas obligé de faire tout ça. Vous pouvez tout à fait vous sentir bien et avoir des bénéfices en faisant d'autres sports réguliers. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans des choses avec des notions de performance. Mais je pense que c'est important de varier un petit peu puis de le faire aussi soit dans un environnement, soit avec des gens qu'on apprécie. On a la chance en Suisse d'avoir quand même de beaux paysages et des facilités à faire de l'exercice dans des environnements qui sont quand même assez sympathiques.
Et lui aussi, je commence à le trouver un peu plus sympathique. Du coup, je prends confiance et je lui demande combien de sports il faudrait que je fasse par semaine pour en tirer les bénéfices pour ma santé.
Les recommandations de l'OMS, c'est quand même 5 fois 30 minutes d'activité en endurance. Et puis, on a tendance souvent à oublier 2 fois 15 ou 20 minutes de renforcement musculaire léger. Donc si vous faites le total, ça fait 3h10 d'exercice dans la semaine.
3h10 par semaine. 190 minutes. 11 400 secondes. C'est énorme, en tout cas de mon point de vue. Je vous jure, chère visiteureuse de Microsciences, que si je ne suis restée, ce n'est que pour vous. Relativisons, il faudrait que j'utilise 1 à 2% de mon temps à faire du sport ou de l'exercice. Allez, on reste positif, c'est pas si énorme. Je vais donc m'y remettre, d'autant plus que ce n'est pas du sport, mais de l'activité physique.
L'activité physique, c'est n'importe quoi où vous allez augmenter votre dépense énergétique. Donc quand vous êtes venu en métro, si vous avez monté les escaliers, vous avez fait de l'activité physique. Si vous faites le ménage, vous faites de l'activité physique. Après, le sport, c'est une petite partie de l'activité physique où, bah oui, vous augmentez votre dépense énergétique, c'est sûr. Et puis, vous le faites dans un cadre structuré avec des règles, souvent dans un cadre de club ou de fédération. Puis il y a souvent aussi un esprit de compétition ou de classement.
Et ça tombe bien, parce que je ne me vois pas du tout dans un classement. Ou alors, à la fin du classement. Bon, je reprends donc l'activité physique, l'exercice, mais seulement si on m'explique pourquoi il faudrait que je m'y remette.
Je pense qu'il faudrait rester actif ou pas l'arrêter, ou en tout cas que ce soit même un mode de vie qui soit mis en place à l'école dès le plus jeune âge et puis qu'on n'arrête pas. Bon, là, la situation est telle qu'elle est, donc...
Donc, pas la peine d'en rajouter. Il y a eu pandémie, surcroît de travail, soucis, etc. Mais ça sert à quoi de rester actif ?
Le fait de rester actif physiquement, c'est probablement le meilleur traitement qui puisse exister au monde, parce que de plus en plus on le qualifie de traitement qui a probablement le plus d'effets bénéfiques multiples sur l'ensemble des fonctions vitales et puis sur la prévention de la plupart des maladies chroniques qu'on nomme souvent les maladies de la sédentarité.
Maladie de la sédentarité. Ah, le site de l'OMS. C'est bien ça. La sédentarité renforce toutes les causes de mortalité, double le risque de maladies cardiovasculaires et de diabète, d'obésité et augmente le risque de cancer du côlon, d'hypertension artérielle, d'ostéoporose, de troubles lipidiques, de dépression et d'anxiété. Ah ouais, quand même. Et nous serions 60 à 85% de la population, toujours selon l'OMS, à avoir un mode de vie sédentaire. Ok.
Et puis au-delà des maladies, ben la plupart du temps, c'est ce que nous disent les gens, une fois que les premiers temps sont un petit peu passés, on se sent mieux, à la fois psychologiquement, physiquement, parce qu'on est, on est moins essoufflé dans les escaliers, on a des capacités qui ont augmenté, et puis souvent ça augmente de façon assez importante l'estime de soi, à la fois parce que on fait des choses qu'on se sentait pas forcément capable de réaliser avant de refaire du sport. Et puis, faut être réaliste aussi. C'est peut-être pas la chose qu'il faut viser en premier, mais ça peut permettre de perdre du poids, d'être un peu plus musclé. Il y a un aspect esthétique aussi qui compte, hein. Il faut pas se voiler la face.
Eh ben voilà, ça me parle. Un peu plus. Allez, je vais faire un effort. Fini l'ascenseur. À la fin de ce podcast, je monte les 4 étages pour rentrer chez moi à pied. C'est bien ça, non ?
Quand vous montez les 4 escaliers, vous allez être moins sédentaire ou pas sédentaire. Le fait de monter les escaliers ou de se lever régulièrement ou de te déplacer un petit peu la journée, c'est plutôt des mesures qui vont être des mesures qui visent à rompre la sédentarité. On n'appelle pas vraiment ça un exercice programmé parce que vous vous dites pas le matin ou en partant, ce soir je remonterai à pied.
Si, moi. Mais si je comprends bien, monter les escaliers, ce n'est que le début. Ce n'est pas encore de l'exercice physique.
Pour la santé en général, la sédentarité et puis ce qu'on appellerait l'inactivité physique ou le manque d'exercice, c'est deux choses différentes. Et puis, si vous êtes complètement sédentaire, vous avez besoin de plus d'exercice physique pour avoir les mêmes effets bénéfiques sur la santé. Ce que je vous ai dit d'ailleurs, là, ici, sur les 5 fois 30 minutes par semaine, mais on encourage même les gens, quand ils sont complètement sédentaires, à faire plutôt le double. Parce que les effets de l'exercice physique sont un petit peu annihilés par le fait que vous restez assis 8 heures par jour.
Faudrait quand même éviter de me décourager. J'ai déjà lâché l'ascenseur. Franchement, faut voir d'où je partais. Alors je fais quoi, là ?
Maintenant, vous allez essayer de faire un petit peu plus et puis de mettre en place un programme d'exercice un peu plus planifié qui vous permette d'accéder progressivement à ces 5 fois 30 minutes qui devraient être suffisantes puisque vous êtes plus sédentaire. On sait aussi que chez des personnes, plutôt les personnes un peu plus âgées, on peut avoir des effets bénéfiques qui sont un peu moindres mais qui existent, qui sont réels, dès 15 minutes par jour.
On va pas s'attarder sur mon âge, mais pour ce qui est de l'exercice ?
Pour ce qui est des exercices de 30 minutes, c'est plutôt des exercices qu'on appelle qu'on dit globaux, c'est-à-dire d'endurance, qui vont solliciter une part importante de la musculature sur des durées assez prolongées. Donc oui, ça peut être marche, vélo, rameur, course à pied, dans un fitness vélo elliptique, stepper, ce que vous voulez, toutes les activités qui essouffle un petit peu de façon prolongée.
Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que m'essouffler durant 1 ou 2 minutes chaque heure n'est pas vraiment la bonne option.
Alors on parle d'une demi-heure, hein, je vous disais tout à l'heure, pour les séances d'exercice. On peut faire en plusieurs fois dans la journée, mais on a du mal à avoir des effets bénéfiques cardio-respiratoires pour des fractions de moins de 10 minutes.
Je comprends, et ensuite ?
On recommande aussi de faire 2 petites séances de renforcement musculaire léger. Alors, c'est pas des choses très compliquées, qu'on peut tout à fait les faire à la maison. de faire la chaise, des squats, des exercices simples sur les bras, les épaules, des pompes, des choses comme ça, hein, alors qu'ils vont, voilà, faut pas se fixer d'en faire 50 la première fois.
Je n'y avais pas songé une seule seconde. Et le renforcement musculaire, c'est utile pourquoi ?
Sur le plan métabolique, c'est intéressant, ça entretient la masse musculaire. Même sans parler de personnes âgées, à partir de 50 ans, la masse musculaire diminue progressivement. Et puis c'est un des éléments supplémentaires qui explique aussi quelquefois les problèmes de contrôle de poids, parce que c'est quand même là que vous brûlez l'énergie, les muscles. Donc si vous en avez moins, vous avez une dépense énergétique qui est moindre de toute façon.
Résumons. Je ne me mets pas au sport, je commence une activité physique. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me rassure. Je commence donc par rompre la sédentarité en choisissant les escaliers plutôt que l'ascenseur. Et puis, doucement, mais sûrement, je commence par 15 minutes par jour et j'augmente gentiment jusqu'à 30 minutes par jour. Allez, j'y crois. Je me motive, tout va bien. Et en combien de temps je monte à 30 minutes par jour ?
Ouais, il faut le faire progressivement, puis je pense que voilà, faut se le fixer en 2 mois.
Vendu !
Et puis pour les 2 séances de renforcement musculaire, on essaiera d'y aller très progressivement. C'est vrai que ça va donner des courbatures.
Et voilà, c'est le cœur du problème, les courbatures. Mais qu'est-ce que c'est insupportable !
Ça inquiète souvent. Faut rassurer, parce que ça passe très vite. Et il faut vraiment être persuadé, et c'est la vérité, il faut arriver à persuader les gens que on n'a pas de recette magique à part de dire que le meilleur moyen de se prémunir des courbatures, c'est d'en avoir un petit peu, et puis de l'augmenter progressivement, et elles disparaîtront.
Mais quand ? Les courbatures sont donc une fatalité ?
À partir du moment où vous faites quelque chose d'inhabituel, oui, c'est une fatalité. Ce qu'elle signifie, alors ça peut effrayer, mais en fait, elle signifie juste qu'il y a eu des toutes petites micro-lésions dans vos muscles. Même la marche, à chaque fois que vous mettez un petit peu de tension sur vos muscles, quand ils se contractent, notamment quand ils doivent freiner un petit peu à la phase d'amortissement du pas, mais alors c'est encore plus flagrant si vous faites des exercices comme des squats où vous devez contrôler la descente de vos jambes. Ben, il y a une tension plus importante sur vos muscles, et puis il y a des toutes petites micro-lésions dans vos muscles qui vont se réparer et puis qui vont vous permettre d'être plus fort. C'est l'adaptation normale à un effort qui permet ben, la fois d'après d'avoir un petit peu moins de courbatures ou d'arriver à faire un nombre, une durée d'exercice un petit peu plus importante. Et puis progressivement, les courbatures vont disparaître pour le même niveau d'exercice.
Ok, j'ai bon espoir. Mais concernant les séances de 30 minutes, genre, si je fais 29 minutes, c'est fichu. 28 ou 29 minutes, c'est déjà pas mal, non ?
Effectivement, déjà, quand on s'adresse à des gens qui sont sédentaires, on a même tendance à dire « chaque mouvement compte ». À partir du moment où vous bougez un peu plus, c'est déjà bien. Après, quand vous voulez aller dans quelque chose d'un peu plus structuré, une fois que vous êtes sorti de la sédentarité, effectivement, c'est un petit peu péremptoire de dire 30 minutes et pourquoi pas 29 et pourquoi pas 35. Surtout qu'il faut bien admettre que ça repose pas sur des bases scientifiques non plus hyper, hyper solides. On va dire que c'est plutôt une vision pragmatique. C'est un compromis qui est assez bon entre c'est faisable, j'ai des effets physiologiques bénéfiques, j'arrive à le mettre dans mon emploi du temps, j'ai pas trop de risque de me blesser avec ça. Mais dès que vous bougez, vous brûlez des graisses et du sucre.
Eh ben voilà. Et toutes ces années où on m'a dit « si tu fais pas 45 minutes, eh ben ça sert à rien ».
Si vous faites 12 ou 15, ben 15, les effets bénéfiques vont être un petit peu supérieurs, mais 12, ils sont pas nuls, loin de là.
Alors, une bonne fois pour toutes, chaque mouvement compte. Et finalement, cela ne sert à rien de se fixer des objectifs qui nous paraissent insurmontables. Et c'est seulement dans ce cas-là qu'on pourra peut-être, et je dis bien peut-être, commencer à jouer sur l'intensité de l'effort.
C'est des gens qui sont un peu plus actifs, qui ont la capacité, et puis qui ont un peu moins de temps. On sait qu'on peut avoir les mêmes effets avec quasiment moins de temps, mais à intensité élevée. Encore faut-il être capable de le faire, Puis encore une fois, c'est pas ce qu'on va recommander d'emblée chez quelqu'un qui reprend. On va lui recommander plutôt de faire une intensité modérée pour être sûr que son système cardio-respiratoire se réadapte, ses muscles, ses articulations. Mais après, on peut très bien aussi varier en fonction de sa forme du jour. Et puis c'est même souhaitable parce que si vous faites tous les jours ou un jour sur deux la même chose, à la même intensité, ça devient un petit peu monotone et puis c'est aussi une cause d'abandon de l'exercice.
Promis, je ne vais pas abandonner. Mais alors si je pouvais avoir une petite carotte pour me motiver, ça serait top. Une petite, hein, pas besoin de me promettre monts et merveilles.
Alors ce qu'on constate le plus rapidement, on est moins essoufflé, on se sent mieux dans la vie de tous les jours ou quand on fait les exercices qu'on a commencé. Puis très souvent, les gens vont se remettre à faire de l'exercice. C'est un peu dur pendant une semaine ou deux. Puis après, la 3-4e semaine, ils se sentent mieux. Puis ils allaient marcher ou courir 20 minutes, 2-3 fois par semaine. Puis ça va tellement bien que, hop, deuxième mois, ils disent « je vais courir 3 fois 1 heure ». Parce qu'ils se sentent beaucoup moins essoufflés. Et puis là, ils se blessent au niveau articulaire. Donc il faut aussi être assez raisonnable.
Je le serai. Promis. Mais du coup, allez, vous pouvez me le dire. Je vais m'écrire.
Il ne faut pas que ce soit la priorité dans un premier temps. Déjà parce que les gens vont quelquefois reprendre un petit peu de masse musculaire et puis le poids ne va pas beaucoup bouger au départ. Et puis c'est plus long, ça bouge moins vite que les effets bénéfiques sur mon essoufflement, je me sens mieux dans ma peau, dans ma tête. Souvent, il faut aussi adapter l'alimentation, il faut des niveaux d'activité physique quand même assez importants, donc ça vient pas tout seul. Alors il y a une petite nuance, c'est que on s'est rendu compte, ça fait déjà assez longtemps qu'on sait ça, hein, que plus que le poids, ça va quelquefois être la répartition de la masse corporelle et de la composition qui va changer. Et puis un indicateur qui est beaucoup plus sensible que le poids, c'est le tour de taille. Mmh. Et ça, après 2-3 mois d'exercice assez bien structuré, les gens voient assez vite qu'ils flottent dans leurs pantalons ou dans leurs habits. Et c'est aussi important parce que ce tour de taille, c'est quelque chose qui est beaucoup plus intimement relié à la santé métabolique et cardiaque. Donc c'est à la fois un indicateur qui est probablement presque plus pertinent que le poids isolé et puis qui évolue un peu plus vite, donc qui donne une satisfaction un peu plus rapide pour continuer.
Et c'est ce fameux jeans que beaucoup d'entre nous espèrent pouvoir remettre un jour. Le mien m'attend au 4e étage. Alors voilà, je remonte les escaliers, je fais des exercices, du renforcement musculaire. Mon objectif est atteint, je rentre dans mon jeans. Je peux donc m'arrêter puisque j'ai regagné mes capacités physiques.
Si vous continuez pas, vous allez reperdre assez vite, malheureusement. Alors, il y a un exemple qui est très parlant, si vous avez eu l'occasion de connaître quelqu'un qui a eu un plâtre 3 semaines, il a perdu 5 cm de tour de cuisse. Donc, c'est une image peut-être un peu simpliste, puis qui est peut-être pas tout à fait adaptée au contexte, mais qui parle assez aux gens, c'est-à-dire que, ben, il faut l'entretenir, sinon vous allez perdre, et puis si vous vous arrêtez un mois, malheureusement, et ça même les sportifs de haut niveau qui s'arrêtent le savent, ben quand vous allez reprendre, vous allez avoir des courbatures, vous allez trouver ça pas agréable. Ça veut pas dire qu'on peut pas lever le pied un peu de temps en temps ou faire d'autres activités, c'est d'ailleurs même assez souhaitable. Après, je dirais que si vous me dites ça au bout de 6 mois, je me dirais que j'ai un peu loupé ma cible, parce que le but c'est aussi que les gens ils soient autonomes, parce qu'ils y trouvent un certain intérêt ou un certain plaisir. Donc c'est qu'on n'est pas encore, on n'a pas encore complètement gagné la partie. Je pense qu'on a gagné la partie quand les gens ils font, ben, comme on disait tout à l'heure, de l'exercice. C'est-à-dire qu'ils se disent, bon ben cette semaine il y a 3-4 fois je vais faire un truc. Et puis je suis capable de me dire, bon ben j'avais prévu d'aller faire une marche, un tennis dehors, il pleut, je fais autre chose. Ou je le ferai demain, mais je me tiens, voilà.
Voilà. 3h10 par semaine. Je vais finir par les trouver et les garder. Et si je casais ça en une seule fois, genre le dimanche matin, pas trop tôt, hein, mais tout le dimanche.
Alors probablement les effets bénéfiques sont inférieurs et puis surtout le risque de blessure est supérieur. C'est surtout ça. Donc on essaye de recommander plutôt de vraiment le faire de façon fractionnée. Mmh. C'est la même chose pour les sportifs qui sont blessés, qui reprennent leur activité sportive. Alors c'est des fois un petit peu frustrant, mais il vaut mieux qu'ils fassent 20 minutes tous les jours qu'une heure d'un seul coup.
Et pour arriver à mes 3h10 par semaine, je pourrais installer des applications sur mon téléphone et suivre tous mes mouvements, tous mes progrès.
On peut avoir une vision un peu partagée là-dessus. Je pense que c'est des bons outils pour se motiver et puis pour reprendre. Après, encore une fois, moi, de quelques fois, je me dis que si les gens, après 6 mois, ont toujours besoin de ça, c'est qu'on n'a pas encore complètement gagné la partie parce que s'ils ont encore besoin d'être sûrs que... voilà. Moi, j'aurais tendance à considérer que on a gagné par rapport à l'activité et puis la santé quand les gens, ils ont plus besoin d'un truc qui sonne pour leur dire « Est-ce que tu as fait tes 10 000 pas aujourd'hui ?» mais que spontanément, ils ont programmé sur la semaine leur activité physique.
Bon, ben là, j'ai tout compris. On y va en douceur, lentement, mais sûrement. Et dans 6 mois, je me demanderai, j'espère, pourquoi je me posais toutes ces questions. Alors c'est vrai, ce n'est pas facile de combattre la sédentarité. C'est vrai, il faut faire preuve d'un peu de motivation pour s'y remettre. D'abord 15 minutes par jour, et trouver ensuite ce qui me ferait plaisir. À moi, la raquette de badminton cet été sur la plage. Je ne vous cache pas qu'il y a encore un peu de boulot. Mais peut-être pourriez-vous partager votre expérience sur microscience@rts.ch ou encore me poser une autre question de science, parce que là, c'est spontané. Moi, Uma Camis, journaliste scientifique, je cherche les réponses pour vous.
Pourquoi mon orteil me fait si mal quand je le cogne? Pourquoi je dors? Pourquoi je rêve? Qui a inventé la seconde? Pourquoi le glaçon flotte dans mon verre? Vous voyez la lumière quand j'éteins ma lampe? Mon ficus essaie-t-il de me parler?
Ils sont sportifs, eux, et je sens leur regard affligé sur moi. Grégoire Moll, coproducteur, athlète invétéré du podcast. Jérôme Nussbaum, champion de toute catégorie de l'habillage musical. Et David Golan, marathonien de la réalisation. Si cet épisode vous plaît, courez le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Musclez vos doigts en vous abonnant à Microscience sur Apple Podcasts, Spotify ou Play RTS. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.